Bonjour et bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Michel Mouly, docteur Michel Mouly. Je suis Géraldine Jakowski, productrice du podcast Balance ton héroïne. C'est un podcast, puisque vous me posiez la question, qui met en lumière les héroïnes de l'ombre, celles qui œuvrent chaque jour dans une association, une ONG. C'est aussi un podcast qui met en lumière les productrices et réalisatrices qui s'engagent en mettant leur talent, leur savoir-faire pour tenter de résorber les maux de notre société. Et on y vient, puisque vous me posiez la question. J'y interviewe aussi des hommes engagés, des personnalités qui viennent me parler de leur héroïne.
Effectivement, pour moi, la femme qui est ce qu'on appelle l'horloge de la vie, c'est mon héroïne et je dois la protéger toute sa vie. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans de nombreux combats. Alors vous allez certainement plus tard parler d'une partie d'un de mes combats qui est la ménopause, qui dure à peu près 30 ou 40 ans. Et ça, il n'y a pas de post-ménopause. Mais le prochain, je vous avertis, sera l'endométriose. Et il y en aura peut-être d'autres parce que ça m'a, ma formation, mon engagement, m'a permis de couvrir, parce que je ne voulais pas sectoriser mon métier à une petite partie de la vie d'une femme. La vie d'une femme, c'est une horloge qui tourne, c'est 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures. Et de ce fait, il ne faut pas prendre qu'une petite heure de sa vie.
Merci pour ces mots. Et vous me disiez aussi que pour vous, l'horloge de la vie d'une femme, c'était la féminité, la fécondité et la sexualité.
Effectivement, c'est trois éléments importants dans la vie d'une femme. Pourquoi ? Parce que la fécondité, elle se pose la plupart, parce qu'il y en a qui, pour elle, la fécondité, il n'y en aura pas. Et de plus en plus, malheureusement, dans cette société où on ne sait pas ce que sera le lendemain, beaucoup de femmes refusent la fécondité. Et il y en a. Donc la fécondité, qui est un élément important et qui est le début de la vie d'une femme dans sa vie, dans son horloge. En même temps et en parallèle, elle a deux autres éléments qui sont la féminité, son aspect, être femme, et sa sexualité. Parce qu'on peut y avoir des dissociations entre tout ça. Et un jour, il va falloir fermer la porte de la fécondité. Et il faut que la femme reste féminine, et si elle en a envie, il faut qu'elle reste aussi sexuelle. Donc féminité, sexualité, ça sera la partie de mon livre que j'ai écrit pour la ménopause, parce qu'il faut qu'elle garde ses valeurs et il y a la fécondité.
Votre livre dont nous parlerons au cours de cet entretien, Ménopause, tout peut changer. J'aimerais revenir sur votre parcours et sur vos conseils. J'aimerais reprendre une partie de l'article qui a été écrit par Émilie Groyer de Rose Up.
Vous devriez dire que représente Rose Up. Rose Up, c'est une association de femmes atteintes de cancer et qui essayent de vivre cette période et toute cette vie le mieux possible. Elles se réunissent, elles échangent, elles donnent des conseils et c'est très bien. Et Rose Up est en train de grandir dans toute la France. Ça a commencé un petit peu à Paris, on en a un petit peu d'autres centres, on est même en Outre-mer.
Pour reprendre les termes d'Émilie Groyer, elle vous a défini comme insatiable, exigeant, dévoué, respectueux, hyperactif. Et pour comprendre une partie de votre parcours, j'avais envie de reprendre le paragraphe sur exigeant. Michel Mouly commence à manier l'aiguille à 7 ans. Sa mère lui apprend alors à utiliser une surjeteuse, à réaliser des boutonnières et à monter des patrons. C'est un peu comme reconstruire un être humain, dit-il. Son geste est précis, son travail soigné, aucun fil ne doit dépasser. Quand il commence ses études de médecine, le choix de sa spécialité est tout tracé. Il sera chirurgien pour réparer les corps. Mais impossible pour lui de ne faire que ça. Le lien humain est primordial. Il sera donc chirurgien et gynécologue. Une vision intégrative qui transparaît toujours dans sa pratique, le docteur Mouly n'est pas du genre à appliquer bêtement les protocoles. colle. Il fait du sur-mesure.
C'est ma qualité et mon défaut. Mon défaut parce que les gens n'apprécient pas cette qualité. C'est-à-dire que je ne sais pas apprendre sans comprendre. Je ne sais pas appliquer sans être sûr d'avoir bien compris les choses. Alors, c'est le mal de notre société. Il y a beaucoup de gens qui apprennent sans comprendre. Et moi, quand je fais quelque chose, quand je fais quelque chose, c'est compris. C'est comme le vélo, ça ne s'oubliera pas. Alors, effectivement, j'essaye de faire du sur-mesure parce que chaque être, quel qu'il soit, homme ou femme, est différent. Et donc, on ne va pas appliquer, on ne va pas donner à tout le monde la même solution. Chacun, on doit écouter, on doit être bienveillant. Et dans cette bienveillance, va naître une solution. Et une solution sur mesure. Voilà, donc c'est pour ça que dans ma vie, j'ai toujours essayé... Alors, c'est vrai que je suis un petit peu strict. C'est-à-dire que j'aime bien être comme un commandant de bord. C'est pas aux passagers de me dire comment je dois conduire mon avion. Donc, je prends mes décisions. Je m'engage dans ce que je vais faire. Mais j'écoute. Je sais où ils veulent aller. Et je vais les amener à bon port. Mais avec la meilleure solution et sur mesure.
D'accord. Alors, lorsque vous conseillez, parce que j'ai entendu lors de notre préparation que vous étiez un coach ou que vous conseillez vos patientes, lorsque vous avez des refus par rapport aux sur-mesures ou à la solution que vous proposez, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, j'essaye toujours, effectivement, j'aime bien tout ce que je sais, j'aime bien le transmettre. Pour éviter que les gens fassent les erreurs que certaines ont commises, que certains commettent ou que moi j'aurais commis. Donc, ce n'est pas la peine de les refaire. Et donc, effectivement, mes patientes, contrairement, celles qui me suivent depuis très longtemps, que je suis depuis très longtemps, elles sont coachées. Elles sont coachées parce que je leur donne toujours et à toutes les étapes de leur vie des conseils pour être bien, le bien-être. Donc, je suis bienveillant pour elles et je prépare toujours l'avenir. C'est-à-dire que moi, je ne regarde pas l'instant présent. Bien sûr, je l'écoute. Bien sûr, je m'en occupe, mais je les projette dans l'avenir. Voilà, donc ça, c'est effectivement ça. Et je coach parce que et si on n'écoute pas ce que je veux, bah vous savez, c'est comme moi, j'étais capitaine dans une équipe de football de deuxième division. Quand il y a un de mes coéquipiers qui ne voulait pas faire ce qu'il fallait, bah, il allait sur la touche. Et donc, quand j'ai une patiente qui ne veut pas suivre les bons conseils que je pense être les bons conseils, je lui dis, il faut qu'on se termine d'être en équipe. On n'est pas une équipe. Et si elle ne comprend pas à différentes étapes, je lui dis, bon, madame, il faut qu'on arrête notre contrat ensemble. Il faut qu'on arrête de travailler ensemble.
Et justement, quels sont les profils des femmes que vous recevez dans votre cabinet ?
Comme vous l'avez compris, je m'occupe de la femme très tôt dans sa vie. C'est-à-dire que j'ai des jeunes filles qui viennent me voir. J'ai même opéré des enfants qui avaient 3, 4, 5 ans de par ma spécialité de cancérologie ou de par ma spécialité d'autres formations. Et donc, c'est vrai que je prends les jeunes filles, elles viennent me voir, c'est les mamans qui me les amènent ou c'est les jeunes filles maintenant qui viennent parce qu'avec les réseaux, on m'entend et on dit « mais je veux aller le voir parce qu'il a une parole qui est comme ça ». Donc, je prends sur toute la vie, c'est-à-dire que je prends les femmes du début jusqu'à la fin. Donc, à 60 ans, on n'aura pas les problèmes de 30 ans. Donc, on aura les problèmes de l'endométriose, on aura les problèmes des règles douloureuses, on aura les problèmes de la prise de poids, on aura les problèmes de la sexualité, puis on aura les problèmes de la fécondité. Et puis, à un moment, on n'aura plus de fécondité, on aura la fémin... Donc, tous les symptômes, je ne veux pas les mettre de côté. C'est-à-dire, je suis à l'écoute de tous les symptômes. D'ailleurs, quand une patiente vient me voir, une femme vient me voir, je remonte jusqu'à ses premières expériences de femme. Et je veux savoir quel a été son parcours. Parce que le parcours d'une femme va se retrouver plus tard, toujours.
Donc, en fait, vous êtes en train de dire que le parcours d'une femme est dans ses cellules.
Alors, les cellules peuvent être ce qu'on appelle... Alors, il y a l'hérédité, puisque vous savez très bien que si vous avez une jeune fille qui vient avec, dans son parcours familial, on a des cancers, on a des pathologies métaboliques, des diabètes, de l'hypercholestérolémie, telle ou telle pathologie, bah oui, elle arrive avec telle chose, avec son bagage, et il faut l'écouter et il faut la protéger pour l'avenir. Mais il faut en tenir compte. Si vous voyez la personne sans lui poser de questions, sans l'interroger, sans savoir ses antécédents, ça sert à rien. Vous allez vous tromper. Vous n'allez pas aller dans la bonne direction.
Quels sont les symptômes de notre société ? On les connaît, on en entend parler tous les jours, que ce soit au travers des médias ou des réseaux sociaux, mais je veux la réponse d'un spécialiste, d'un gynécologue qui exerce depuis 35 ans et dont la mission de vie est d'accompagner les femmes tout au long de leur cycle. C'est quoi les symptômes en 2023 ?
Alors déjà, il faut savoir que les femmes, malheureusement, sont abandonnées et sacrifiées.
C'est dur ce que vous êtes en train de me dire.
Je le dis et je l'écris. Elles sont sacrifiées parce que malheureusement, il n'y a plus de personne à leur écoute. Il n'y a plus de gynécologue. Quand vous avez des femmes qui viennent vous voir et qui me disent « Docteur Mouly, je suis venu vous voir, j'ai attendu déjà vous 3 mois, mais dans l'endroit où je suis, il faut au moins 18 mois pour voir quelqu'un qui n'est en plus même pas encore avec une expérience et tout ça. » Donc vous voyez déjà. Donc on a des déserts médicaux, ça vous avez entendu parler. Et donc après, on voit des femmes en détresse qui ont besoin d'être aiguillées. Après, les symptômes, c'est les symptômes... ça peut être tout, c'est les douleurs, c'est les saignements, c'est la prise de poids, c'est le premier rapport sexuel, c'est tout. Et les réseaux ne font pas tout, c'est-à-dire que les femmes ne trouvent pas obligatoirement dans les podcasts, dans les films, tout ce qu'elles cherchent. Ah, on peut trouver certaines choses, des mauvaises choses. Mais ce qui est important dans leur vie, elles ne le trouvent pas. Et c'est pour ça que récemment, j'ai rencontré des gens politiques, des gens au niveau de l'éducation nationale, des gens au niveau de la santé, des gens au niveau très hautement placé dans certains quartiers de Paris ou à l'Élysée, où j'ai proposé de pouvoir expliquer aux jeunes ce qu'on appelle le parcours de santé humaine. Et ça, j'aimerais pouvoir faire à l'éducation nationale une matière obligatoire pour qu'on explique aux filles et aux garçons, bien sûr, quel sera leur avenir. Qu'ils n'y soient pas surpris. Moi, quand je vois des femmes qui arrivent à 50 ans et qui me disent « C'est quoi la ménopause ? Ça dure 5 ans ?» Je dis « Attendez, on est sur quelle planète ?»
5 ans ?
Cette question, je l'ai posée à maintes reprises dans des ministères, à l'Assemblée nationale, et on m'a répondu « Oh, pff, la ménopause, ça dure 5 ans. » Et là, j'ai dit à ces personnes, j'ai dit, c'est vous qui allez vous occuper de la santé des femmes et des 40 ans qu'ils vont faire ? Vous êtes dans quel monde ? Des gens lettrés, des gens formés. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que les femmes sont sacrifiées. Je sais pour ça qu'elles sont abandonnées et elles sont oubliées. Elles sont oubliées même dans les études de médecine, parce que quand vous faites vos études de médecine, la gynécologie, ça peine 1 ou 2 heures. Et puis, vous allez faire un stage pour voir comment on fait un accouchement. Puis voilà, c'est fini. Et puis, on apprend surtout les maladies de l'homme, mais peu les maladies de la femme, qui sont les plus grandes consommatrices de santé. Quand vous voyez toutes les étapes qu'elles ont dans leur vie, de la puberté, l'adolescence, la grossesse, la contraception, la préménopause, la ménopause, et toutes les pathologies qui arrivent après, mais on n'en parle quasiment pas. Ah, on va vous parler de plein d'autres pathologies, mais pas de la santé des femmes. Et la santé des femmes, c'est la santé du couple, et c'est la santé de la famille, c'est l'horloge de la vie.
Merci de le poser là et merci à vous parce que j'avais bien compris que c'était votre mission de vie de nous accompagner, mais je le comprends mieux par les mots que vous venez de poser.
Effectivement, les médecins généralistes ou autres, ne sont pas formés à la santé de la femme. J'ai un frère médecin généraliste, excellent médecin généraliste, qui n'a jamais compris ce que c'était la ménopause et qui n'a jamais compris qu'il fallait traiter la ménopause. Puis un jour, il m'a dit « Michel, c'est grave la ménopause », quand il a vu toutes les pathologies que ça donnait. Et de ce fait, après m'avoir critiqué pendant 25 ans, il s'est mis à traiter la ménopause parce qu'il a dit « On ne peut pas abandonner les femmes ». Et il s'est rendu compte que les médecins généralistes, mais rien, ils connaissaient rien. Alors on traitait les conséquences de la ménopause. Alors la ménopause n'est pas une maladie, c'est une étape de la vie. Mais quand elle n'est pas prise en charge comme elle l'est actuellement, 5% des femmes sont traitées actuellement. 450 000 nouvelles femmes arrivent sur, entre guillemets, le marché de la ménopause. Vous vous rendez compte, 95% des femmes ne sont pas traitées. Et quand elles ne sont pas traitées, elles vont voir apparaître pas toutes les pathologies, mais beaucoup de pathologies dont vous entendez parler. Et plus on augmente l'espérance de vie, et plus les pathologies arrivent. Alors on vivait, en 1960, on vivait jusqu'à 65 ans. Puis on est maintenant à 85 ans. Et puis les générations qui naissent, elles vont vivre jusqu'à 92 ans. Et puis un jour, on sera centenaire. Donc vous imaginez, de 50 ans, qui est l'âge théorique 51 ans, 100% des femmes seront ménopausées, jusqu'à 100 ans. Mais on prévoit quelque chose pour elles, à tous les niveaux, sur la santé, en société, rien n'est fait.
Et c'est pour ça que vous nous appelez la génération sacrifiée.
Oui.
C'est-à-dire les femmes sont sacrifiées.
Encore
dans notre
plus
société.
Sacrifiées. Puisqu'après une étude américaine qui est parue en 2002, alors que les femmes se traitaient pour la ménopause en France, et en plus on avait la chance d'être en France, puisqu'en France, on était le pays qui a inventé les meilleures hormones, les hormones naturelles, pas comme les Américains. Et on a eu une étude en 2002 qui a fait qu'on est passé de 30% de femmes traitées, on était en phase ascendante, c'était la jouvence pour les femmes, elles étaient heureuses d'être traitées, à moins de 5%, et sacrifiées pendant 20 ans. Ça a créé un tsunami dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et donc on a vu apparaître, alors oui.
Qu'est-ce qui s'est passé en 2002?
En 2002, les Américains ont fait une étude que nous n'aurions jamais fait en Europe, puisque nous traitons, nous, avec certains médicaments qui ne sont pas les Américains. Vous savez très bien qu'une Américaine n'est pas une Européenne. L'Américaine, vous avez 60% d'obésité. Vous avez l'hypertension. Vous avez du diabète. Et nous, on n'est pas dans cette perspective actuelle. Et en plus, ils utilisaient les molécules qui sont des molécules de synthèse et des molécules d'origine animale et qu'on donnait par la bouche. Alors que nous, en France, on utilise des molécules naturelles par voie cutanée. Donc, voilà. Il y avait un problème, là. Pourquoi vous voulez nous faire prendre la conclusion de votre étude sur nous, les Européens, et notamment les Françaises, parce que je dis bien toujours les Françaises, parce que c'est en France qu'ont été inventés l'œstrogène naturel par voie cutanée. C'est pas autre part. C'est en France. Et les Américains n'ont jamais voulu le faire. Et donc, ils ont donné cette étude. Ah oui, en 2002, on a eu dans Le Monde un article « Femmes, arrêtez de prendre des traitements hormonaux, ça donne le cancer du sein et des maladies cardiovasculaires. » Ah oui. Quand on donne un médicament qui se prend par la bouche, qui sont des hormones de synthèse, qui sont d'origine animale pour une partie, à 63 ans en moyenne, alors que la ménopause commence à 50 ans, quand on est plus de la moitié sont obèses, hypertendues, anciennes fumeuses, diabétiques, vous êtes sûr que vous allez avoir toutes les pathologies qui vont en découvrir, qui vont venir après découler. Donc voilà, donc on n'était pas... Alors c'est très bien d'avoir fait cette étude, parce que ça nous a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et les Américains, ils ont le pouvoir de faire des études avec l'argent. D'ailleurs, je signale que cette étude n'a pas été sponsorisée. Elle a été financée par un laboratoire parce qu'il voulait inonder le monde entier de son produit pour la ménopause. Manque de peau. Il s'est trompé. Ce labo Wyeth a fait faillite et a été racheté par Pfizer. Voilà. Voilà l'histoire de ça. Alors, bonne nouvelle, mesdames. Les Américains. Et alors, je vais vous citer tous les autres pays. En juillet 2022, donc les Américains qui ont fait le tsunami, en juillet 2022, recommandent le traitement hormonal de la ménopause le plus tôt possible et sans limite de durée pour améliorer la qualité de vie des femmes, prévenir les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, sans augmentation du risque de cancer du sein. On a tout dit. Ils ont changé d'avis. Mais qui a signé aussi avec eux? La Chine, l'Inde, l'Allemagne, l'Espagne, toute l'Amérique du Sud, le Japon, enfin tous ces pays-là. Et nous les Français, on n'a pas bougé d'un poil avec la Haute Autorité de Santé en 2014, recommandation, traitement hormonal de la ménopause, si la patiente a des problèmes, des signes qu'on dit vasomoteurs, et pour la plus courte durée. C'est-à-dire 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que la femme est ménopausée à 51 ans, à 56 ans, éventuellement elle aura jusqu'à 56 ans, et puis après, on la laisse, parce que vous l'avez eu. Tout ça, ça vient d'un mensonge et d'une mauvaise interprétation. Parce qu'on dit aux femmes, vous êtes ménopausée, et puis après, vous avez la post-ménopause. Alors ça fait croire aux femmes que la ménopause, ça dure 4-5 ans, on rentre dans un sas, Et on ressort après avoir « Ah, il n'y a plus de bouffée de chaleur. Ah, c'est bien, je me sens mieux, j'ai plus tous les... » Mais non, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Et dessous, vous avez toutes les pathologies qui vont arriver. Elles vont arriver. Quand on n'a plus d'œstrogène, on n'en a plus. Quand votre thyroïde ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus. Quand votre pancréas ne fonctionne plus, il ne fabrique plus d'insuline. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on compense. Voilà.
Eh bien.
N'ayez pas peur, hein. Moi, je suis très optimiste parce que je vais me battre. Et je me battrai jusqu'au bout.
Donc, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez continué, depuis 2002, à conseiller ou à traiter vos clientes avec ce traitement hormonal.
Alors, ce traitement, donc, j'ai eu la chance. Mais alors, c'est pas la chance. Non, je veux pas dire c'est la chance. Parce que quand j'étais en chirurgie à l'hôpital Cochin, qui était le grand service où on faisait de l'endométriose et on traitait les problèmes de fertilité, j'allais quand même au staff à Necker du professeur Mauvais Jarvis, qui a inventé les œstrogènes par voie cutanée. Donc, j'allais m'imprégner de l'endocrinologie de la femme. J'aurais pu partir au café ou aller jouer à la Game Boy ou quoi que ce soit. Non. Je voulais prendre la femme dans son unité et comprendre comment on pouvait articuler pour qu'elle soit bien. Donc, je savais l'opérer, je savais reconnaître les pathologies, mais il fallait aussi y apporter l'essence, il fallait lui apporter son carburant, ce qui lui permettait d'être en forme. Et ça, ça demande du temps. Ça demande de l'envie. Et bon, voilà, je l'ai fait.
Vous m'aviez parlé aussi du chiffre de 14 millions de femmes qui sont ménopausées en France. Et surtout, 100% des femmes sont ou seront ménopausées à partir de 51 ans.
Alors, il faut savoir qu'on augmente l'espérance de vie. Et que quand j'ai fait mon livre, quand j'ai fait des recherches et tout ça pour avoir des chiffres assez précis, on était à 12 millions. Le livre a été écrit en 2021, voilà, et il est sorti en 2022. Aujourd'hui, nous sommes à 14 millions de femmes ménopausées. Chaque année, 450 000 nouvelles femmes arrivent sur le marché de la ménopause. Et il faut savoir qu'il y en aura de plus en plus dans une période d'à peu près 15-20 ans, parce que ce sont les femmes du baby-boom. Quand vous avez 100 femmes qui se naissent, vous aurez 100 femmes 50 ans plus tard. Quand vous n'en avez que 30 qui naissent, vous n'en aurez que 30. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, et attention, la finance de la pharmacie, enfin de nos industries pharmaceutiques, ils ont bien compris ça. Ils savent très bien les chiffres. Alors on vous a fait peur en disant « Oh là là, augmentation du cancer du sein en 2004 ». Bah oui, quand on avait un baby-boom qui fait qu'on est passé à une fécondité de 2,6 ou 3 après la guerre, c'est normal que 50 ans plus tard, on retrouve plus de femmes et plus de cancers. Et c'est normal qu'en plus, intelligemment, ils ont mis en place un dépistage organisé. Et ce dépistage, ben, au lieu de dépister 100 femmes, il y en a 400. Et en plus, vous allez les chercher. Donc, on augmente le chiffre artificiellement du cancer du sein. Et comme vous le dites, la ménopause, qui est l'arrêt de fonctionnement des ovaires et de fabrication des œstrogènes, cette ménopause, elle touche 100% des femmes. Alors, elle survient en général entre 45 et 55 ans, et comme je le répète, c'est à peu près 51 ans. Injustice de la vie. Les hommes sont andropausés, 50% des hommes sont andropausés à 70 ans. 10 à 20% des hommes sont andropausés à 50 ans. Donc, voyez la différence. On a 100% de femmes ménopausées et l'équivalent chez l'homme, c'est l'andropause, mais vous n'en avez qu'un sur deux à 70 ans. Et nous, les hommes, bah, on vit jusqu'à actuellement 79 ans. Donc, il y a vraiment une injustice. Mais alors, il faut savoir que l'espérance de vie de l'homme augmente. Celle de la femme avec le tabac, la sédentarité, le surpoids est en train de stagner, voire de régresser un petit peu. Donc, il faut faire attention. Il faut informer. Il faut prévenir les femmes. C'est pour ça l'intérêt de ce que je voudrais faire à l'éducation nationale pour que les jeunes filles et les jeunes garçons de 13 ans sachent quel va être leur parcours, quelle va être leur vie, comment faire attention. Et puis comme ça, on est informé. Une personne avertie en vaut deux.
Est-ce que vous avez été entendu au ministère de la Santé ?
Alors au ministère de la Santé, j'ai proposé... Alors j'étais entendu. Oui, effectivement, on m'a entendu parler, effectivement, parce que j'étais assez critique. parce que j'ai posé une question. J'ai demandé, dites-moi, combien de temps ça dure la ménopause? Et quand j'avais mon interlocuteur de la santé, responsable, qui me dit, oh ben ça dure 4-5 ans. Là, je me suis dit, ouais, on est mal parti là. J'ai été entendu à l'Élysée par un chef de cabinet, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit, mais on n'avait jamais, parce qu'on parlait des retraites, jamais pensé de ça pour la femme. C'est 5% des femmes qui sont traitées à 51 ans. C'est-à-dire qu'à 56, 57, 58 ans, 90% des femmes ne seront pas traitées. Et entre guillemets, elles seront lessivées, fatiguées. Ça, c'est ce que je vois tous les jours. Vous me parliez des symptômes. Mais quand vous voyez une femme de 56, 57, 60 ans qui est traitée et celle qui n'est pas traitée, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et donc, là, ils ont réfléchi. Et cette personne a téléphoné à cette haute autorité de santé. Il est revenu en retour. Mais j'ai toujours rien. Donc, je continue le combat. Et le pouvoir, il est chez les femmes.
Et justement, au travers de cette interview, on va mener le combat à vos côtés.
C'est ce que je demande. Vous allez, mais vous savez, c'est le pouvoir de la rue, le pouvoir des femmes. Et Dieu sait si le pouvoir des femmes est important. Même si les hommes croient qu'ils ont le pouvoir, elles ont toujours le dernier mot.
Par rapport à votre traitement, ce que vous m'avez dit de votre traitement, c'est qu'il...
C'est pas mon traitement. C'est le traitement qui a été élaboré par mes maîtres en 1970, puisque le traitement hormonal de la ménopause à la française a été élaboré par mes maîtres. Il n'a pas changé, il a évolué. Mais on le connaît depuis 1970. Les Américains le connaissaient. Les Américains ont fait le premier traitement de la ménopause en 1940, parce qu'ils se sont dit, oh là là, c'est quoi ces femmes-là? Elles sont pas bien. On va leur donner des hormones. Donc ils ont commencé par leur donner des œstrogènes par la bouche, seuls. Et puis, 10 ans après, ils ont vu qu'il y avait des cancers de l'utérus. Donc, on a donné de la progestérone. Alors, les produits ne sont pas bons, c'est des produits de synthèse, qu'on prend par la bouche, qui créent des maladies. Bon, voilà. Mais nous, en 1970, on avait déjà la solution. On était déjà dans la bonne démarche vis-à-vis des femmes. Et on nous a tout détruit. Les médias nous ont détruits. Je vous le dis honnêtement. Parce qu'ils n'ont fait aucune expertise. Quand vous dites que je suis exigeant, nous, à l'Institut Gustave Roussy, à l'époque, il nous a fallu presque 1 an et demi pour faire l'analyse de l'étude américaine. 1 an et demi. Et on a dit, oh là là, mais ils sont trompés. C'est pas les bonnes femmes. C'est pas les bons médicaments. Pourquoi ont-ils fait cette étude? Mais comme les médias se sont empressés de faire des articles dans tous les journaux, eh ben, il y a eu cette peur. La peur du cancer. La peur de la maladie cardiovasculaire. Alors que la solution, elle existait déjà. On avait déjà fait les preuves.
Pour revenir à votre traitement, celui qui déprogramme l'obsolescence hormonale, est-ce qu'il est adapté à toutes les femmes, qu'elles soient en préménopause ou ménopausée?
Vous avez ce qu'on appelle la préménopause que vous avez citée, qui peut commencer 2 voire 10 ans avant la ménopause qui est 51 ans. Vous avez ensuite la ménopause qui arrive à 51 ans et autour de cette ménopause, 1 an avant, 1 an après, on a ces variations qu'on appelle la périménopause. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Vous avez des femmes en surpoids, vous avez des femmes trop minces, vous avez des femmes qui ont plus d'utérus, vous avez des femmes qui ont de l'hypertension, vous avez des femmes qui ont... Voilà, c'est pour ça le sur-mesure. Et donc, le traitement à l'européenne, à la française, lui, va tenir compte de tout ça, puisque lui, il protège le foie, parce que nous avons des œstrogènes qui sont des hormones qu'on utilise par voie cutanée, au niveau des avant-bras, et j'y tiens beaucoup au niveau des avant-bras, parce que je ne veux pas qu'on les mette sur la main et qu'on fasse ce qu'on appelle la macarena, c'est-à-dire qu'on en mette sur l'épaule, sur la cuisse, sur la fesse, vous voyez. Alors que vous allez en perdre, et on calcule les quantités, elles sont bien précises, et là on en perd. Donc pour moi, c'est un non-sens. Moi qui ai fait de la pharmacologie, et oui, je me suis intéressé aussi à la pharmacologie, et j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir des pharmacologues qui nous ont bien expliqué les voies d'absorption des médicaments. Et de ce fait, je l'ai intégré dans ce que je faisais. Et c'était vrai, les Français avaient raison. Donc, vous me parliez du traitement. Alors, le traitement, il est simple. Hein, c'est utiliser des œstrogènes et de la progestérone naturelle pour remplacer cette obsolescence hormonale. C'est-à-dire obsolescence, la femme à 51 ans, en moyenne, parce que vous avez des femmes à 56 ans qui sont toujours pas ménopausées. Mais ça existe. Et vous en avez qui sont ménopausées beaucoup plus tôt. Mais en moyenne, à 51 ans, il lui faut des œstrogènes, de la progestérone testostérone, peut-être pas. Puisqu'une femme qui n'a plus d'utérus n'a plus besoin de progestérone pour protéger l'utérus qui n'est pas là. L'hormone essentielle de la femme sont les œstrogènes, qu'il faut le plus possible donner par voie cutanée, soit sous forme de gel, soit sous forme de patch qu'on met, et qui va permettre donc d'agir sur tous les organes du corps. Quand je dis tous les organes du corps, tous les organes du corps. Vous avez des récepteurs aux œstrogènes sur tous les organes, dans le cerveau, dans les muscles, dans la peau, dans le cœur, dans les os, partout, dans le vagin. Les œstrogènes agissent partout. Ils ont un effet, qu'on va dire, protecteur. Ils ont un effet de trophique. Trophique, ça veut dire qu'ils vont développer. Donc, si vous ne les avez pas, ça ne va pas se développer. Donc, chez la femme, le vagin devient sec. La peau commence à s'effriter, devient ridée. Les os vont s'effriter pour une grande partie, pour une femme sur 3 ou 4. Donc, vous avez toutes ces pathologies qui vont arriver par l'absence d'œstrogène. La progestérone, qui est une progestérone naturelle, qui dérive des Aztèques, vous vous rendez compte, c'est depuis des Aztèques, c'est de la thiogénine ou l'igname, qui est une autre molécule. Cette molécule qui date depuis si longtemps, on la donne, c'est une progestérone naturelle que les Américains n'ont pas voulu utiliser, mais maintenant ils l'utilisent, et qui, elle, n'entraîne pas d'augmentation du risque de cancer du sein et qui va protéger l'utérus. Alors, elle a un avantage aussi pour certaines femmes, c'est qu'elle leur permet d'avoir un bon sommeil, un bon endormissement. Ça, c'est un plus parfois. Voilà, donc le traitement hormonal, c'est quelque chose qu'on prend en général pour être simple. Le plus important, c'est l'observance, c'est-à-dire dire à la femme des choses simples, pas compliquées. Alors moi, je dis toujours du 1er au 25e jour du mois. 1er, 25, 1er, 25, qui est 31, 26, 28, enfin, il n'y a pas de 28, mais en février, ça sera 1er, 25. Et pourquoi, en tant que cancérologue, j'insiste, et on insiste, je ne suis pas le seul, à ce qu'il y ait 6 jours de repos sans hormones, parce que vous avez dans votre organisme un mécanisme qui s'appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire. C'est un système dans votre corps qui va venir manger les cellules mortes. Si vous stimulez tout le temps par les œstrogènes, ce système va être bloqué. Et comme il est bloqué, les cellules mortes vont être stimulées, et quand on stimule une cellule morte, elle peut se transformer. D'où l'intérêt. Et en Europe, en France, on insiste pour marquer ce temps de repos. Alors certaines femmes sont très mal quand on les arrête. Alors on essaye quand même de faire peut-être 2 jours d'arrêt. Mais il faut essayer. Et parfois, on est obligé de le faire en continu parce qu'elles sont vraiment très mal. On essaye de leur expliquer. On sait le risque qu'on pourrait prendre. Attention, qu'on pourrait prendre. Mais voilà.
Très bien, c'est très clair, très précis et vraiment je vous remercie de toutes ces informations parce que je pense que ça intéresse 100% de mon audience.
100% des femmes et c'est intergénérationnel. Pourquoi ? Vous savez maintenant, les mamans qui ont eu l'endométriose, qui voient leurs filles souffrir, vont les amener chez le médecin en disant « moi j'ai eu l'endométriose, il faut que vous traitiez ma fille, je veux pas qu'il y ait ça ». La ménopause, si on l'enseigne par exemple à l'école, au collège, quand une jeune fille va voir que sa maman, « Maman, tu déprimes, maman, tu dors mal, maman, tu as des sueurs, maman, tu n'es pas bien », elle va dire « Mais maman, tu sais, c'est la ménopause. J'ai appris à l'école qu'il fallait faire ça. Et tu vois, mamie, comment elle est ? Mamie, elle est bossue. Elle a perdu de la taille. T'as vu comment elle souffre ? On est obligé de lui donner tous ses médicaments. On aurait pu prévenir. » C'est pour ça que je dis, et dans mon livre, je dis que c'est intergénérationnel. Les enseignements, ce que j'informe, c'est générationnel.
Nous sommes en 2023. Les mentalités et les corps se transforment. Est-ce que vous, vous recevez et vous soignez ou vous accompagnez des transgenres ?
Je connais chromosomiquement 2 entités. Une entité XY et une entité X. X. Donc XX, c'est la femme. XY, c'est l'homme. Je ne sais malheureusement pas. Alors, je peux accompagner un homme pour qu'il s'occupe de sa femme et qu'il soit gentil avec elle. J'ai plutôt tendance à m'occuper des XX. Alors, c'est par méconnaissance. C'est que je ne sais pas. Je pourrais, bien sûr, puisque j'ai fait de la cancérologie, je pourrais m'occuper des hommes. Mais je ne sais pas faire. Donc, je préfère les orienter vers quelqu'un. Donc, les transgenres, alors quand vous avez un homme qui est devenu une femme, mais qui a toujours son X, Y, avec ses glandes et tout ça, comment voulez-vous ? Je ne sais pas faire. Et quand je ne sais pas faire, je ne fais pas. Je préfère orienter. Je ne sais pas si... Je sais, ça peut ne pas plaire. Mais je ne vais pas me lancer sur des éléments que je ne connais pas.
Alors, nous sommes sur le podcast Balance ton héroïne. Et c'est vrai que là, vous êtes... pour moi, un héros, et vous êtes venu parler de votre mission de vie qui est d'accompagner les femmes.
Les femmes sont des héroïnes.
Les femmes sont des héroïnes. Et vous, Michel, qui est votre héroïne ?
Alors, la femme dans sa totalité, mon héroïne de ma vie, c'est ma mère, pour qui je ne serais pas là si elle n'était pas là. Voilà.
Je crois qu'on a appris énormément de choses au cours de cette interview et j'avais envie de la clôturer en revenant sur l'article d'Émilie Groyer parce qu'à un moment donné, il y a un paragraphe qui dit que vous êtes dévoué. Je vais le lire. Parce qu'il s'attache avant tout à l'humanité de ses patientes. Le docteur Mouly les interroge beaucoup. À quoi ressemble leur vie ? Ont-elles des problèmes de poids, de nutrition, de sexualité, comme vous l'avez signifié ? Aucune curiosité mal placée dans son approche. Le docteur Mouly a juste besoin d'avoir une vision d'ensemble pour trouver le traitement le plus adapté. Aucun paternalisme non plus. Pour lui, la guérison est un travail d'équipe. La malade doit y prendre une part active. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accompagner vos patientes et pour les accompagner dans la guérison ou dans le mieux-être, c'est une collaboration et vous l'avez dit tout à l'heure, on fait équipe. Et c'est sur ça que je voulais clôturer cette interview.
Je suis, alors à défaut pour certaines, parce qu'elles n'apprécient pas mon paternalisme. Il y a des femmes qui me reprochent de les appeler parfois, comme j'appellerais ma fille, ma petite. Parce que je suis là pour les protéger. Mais c'est vrai que je suis protecteur. Je donne toutes les informations que je peux pour que mes patientes, ou mon entourage bien sûr, mais surtout mes patientes, puisque ne fassent pas les erreurs que certaines ont commises, je les informe. J'essaye de leur donner tous les bons conseils. Alors vous avez bien sûr toujours les récalcitrantes, et j'en ai malheureusement certaines, qui ne sont pas dans la vision que j'ai. Alors, je vois parfois sur des comptes Google ou sur des insultes qu'on fait sur moi. Parce que j'ai ma façon de faire. Je suis un commandant de bord. Je suis quelqu'un qui prend en charge et qui vous amène à destination. Et si vous n'appréciez pas ma façon de faire, il ne faut pas venir chez moi. Vous savez, quand les femmes viennent, je leur dis toujours, pour la première fois, quelle est la tête de chapitre pour laquelle vous venez ? Mais elle commence, je lui dis non, s'il vous plaît, vous venez pour de l'endométriose, pour un fibrome, pour une ménopause, pour telle chose, dites-moi. Elles me disent, et après, elles me donnent des examens. Ces examens, je regarde toujours tous les examens qu'elles donnent, parce que je veux savoir. Je leur pose des questions, mais je pose des questions jusqu'au début de leur vie. Et après, je leur dis toujours, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors, on n'est pas dans un prétoire. Je leur demande toujours, est-ce que vous avez... Et elle me dit, non, docteur Mouly, votre façon de faire, vous avez tout vu, tout dit. Voilà. Donc j'ai une procédure. Ça ne plaît pas toujours. Je le dis. Et quand vous êtes, comme moi, quand je prends en main quelqu'un, c'est moi qui prends en main. C'est-à-dire que j'écoute, je ne vous mets pas de côté parce que vous avez des femmes qui vont avoir ce qu'on appelle une logorée et qui vont avoir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Moi, j'ai des questions précises. Vous savez, j'ai un de mes amis qui est commandant de bord sur 777. Il m'a dit, Michel, on est la même chose tous les deux. On a une checklist. On décolle quand on est sûr que tout va bien. Et ben, moi, je commence à donner mon diagnostic quand j'ai fait ma checklist. Voilà.
Merci en tout cas de m'avoir fait confiance et d'être venu témoigner aujourd'hui, le cœur ouvert et en toute authenticité, de votre parcours, de votre savoir-faire, de votre connaissance du cycle des femmes, d'avoir autant donné à ce micro, à toute l'audience de Balance ton héroïne qui croit chaque jour Et on se retrouve très certainement dans 6 mois, parce qu'aujourd'hui, le thème principal était la ménopause, mais en 2024, je vous donne rendez-vous pour l'endométriose.
Eh bien, pour la ménopause en 2024, je vais annoncer d'excellentes nouvelles qui n'ont pas été mises dans mon livre, parce que j'ai lancé ce qu'on appelle une bouée à la mer pour que les femmes comprennent. Je me suis promis d'aller jusqu'au bout du combat de la ménopause, et j'y arriverai, et je vais rassurer les femmes, et je vais informer les médecins. Et mon deuxième combat sera l'endométriose, et je suis prêt à être là et à répondre avec toute la franchise que j'ai et sans retenue.
Rendez-vous en 2024.
Rendez-vous 2024.